Contrairement au fait que les médias mainstream affichent seulement les attaques des terroristes contre les civils et les forces de sécurité en Afrique, il aurait été préférable également de montrer les avancées des militaires dans leur lutte acharnée contre les terroristes. Au Burkina Faso, par exemple, les forces armées nationales poursuivent les opérations de sécurisation du territoire national à travers les activités menées au sein des groupements de forces. Elles conduisent également des activités de soutien au développement au profit des structures de l'État, de structures privées, ainsi que des activités au profit des populations. Du 10 au 16 janvier 2022, dans la continuité des efforts déployés pour la sécurisation du territoire national, les forces armées nationales ont donc conduit des actions offensives dans plusieurs parties de la région de l'Est. Appuyées par l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, la police nationale, les eaux et les forêts, la douane et avec évidemment la contribution des VDP, les unités terrestres ont effectué des opérations de bouclage et de fouilles, ainsi que d'autres actions offensives et des ratissages dans la localité de Nadiagou et ses environs, donc dans la province de la Kompienga. Ces actions, qui sont toujours en cours, ont permis donc de neutraliser plusieurs terroristes et d'appréhender des suspects. Le 11 janvier, une unité d'intervention du détachement militaire de Markoyé, donc la province de Lundalan, donc a été la cible d'une attaque complexe alors qu'elle effectuait une mission offensive en direction de Tokabangou, donc dans la province toujours de Lundalan, dans la région du Sahel. Malgré la riposte qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes, 5 militaires ont été mortellement atteints. Une contre-offensive aérienne a été immédiatement déclenchée et a permis donc d'intercepter et de neutraliser une vingtaine de terroristes du groupe qui avaient attaqué donc l'unité et qui tentaient de s'exfiltrer vers la frontière du Niger. Leur armement et leurs moyens roulants donc ont également été détruits au cours de cette riposte. Le 13 janvier, une unité d'intervention du groupement est intervenue pour effectuer des opérations de sécurisation suite à l'attaque contre un poste de contrôle de la police nationale qui a eu lieu sur l'axe Gorom-Tasmakat, donc dans la province toujours de Lundalan. Le 16 janvier, la brigade territoriale de gendarmerie de Sampelga, donc dans la province du Seno, la région du Sahel toujours, a été la cible d'une attaque qui a coûté la vie à un gendarme et causé des blessures à un autre. Plusieurs opérations aériennes et terrestres de ravitaillement en vivres ont également été planifiées et conduites par les forces armées nationales au profit de populations de localités du centre-nord, de l'est et du sud-ouest. Ces opérations ont été effectuées en coordination avec le ministre en charge donc de l'action humanitaire. Le Mali enregistre également des avancées assez spectaculaires. Le numéro 2 de la Katiba Massina, Ousmane Sidibé, dit Bobala, a été tué par l'armée malienne lors d'une offensive effectuée le 12 janvier dans le centre du pays, comme l'ont annoncé dimanche les FAMA sur leur site officiel. La Katiba Massina, également appelée Front de Libération du Massina, est un groupe qui est apparu en janvier 2015 dans le centre du Mali. Les FAMA, dans leur offensive contre les groupes armés terroristes, ont procédé donc le 12 janvier 2022 à des frappes aériennes dans les zones de Sama, Soso et Logori, dans le cercle de Bankas, dans le centre du pays, ayant fait plusieurs morts, dont le numéro 2 de la Katiba Massina, Ousmane Sidibé, précise le site. Dans le cadre donc de ces manœuvres offensives, l'opération Kelletigui a également procédé samedi à la destruction de 2 bases logistiques terroristes dans la localité d'Alatona, toujours dans le centre du pays. Le bilan de cette offensive est donc de 9 terroristes tués et 2 véhicules terrestres équipés de mitrailleuses calibre 12,7 mm détruits. L'armée a aussi récupéré 57 téléphones portables, plusieurs armes et 1,5 tonnes d'engrais servant à la fabrication de mines artisanales. Cette zone servait de base de regroupement pour les terroristes qui procédaient régulièrement au harcèlement des populations dans le secteur de Diabali, en les empêchant de vaguer à leurs occupations agro-pastorales et en incendiant les champs, ont ajouté les FAMA, dont un élément a été blessé au cours de l'opération. Simultanément à la lutte anti-impérialiste, les forces armées au Burkina Faso et au Mali se battent sans relâche pour libérer leurs pays respectifs de l'emprise du terrorisme. Il est clair que ces avancées n'ont rien à voir avec la présence de Barkhane et compagnie. C'est bien les armées maliennes et burkinabées, avec également la participation de la population, qui apportent des résultats dans la lutte contre le terrorisme. un Mali souverain et clairement maître de la situation. Ces dernières années, on a bien pu constater que les régimes de sanctions instaurés par les Occidentaux et particulièrement par les États-Unis ne fonctionnent pas et en suivant les diktats des ennemis de l'Afrique, qui eux-mêmes n'arrivent à aucun résultat avec leur politique erronée, la CEDEAO a donc commis la même erreur en tentant d'essayer d'isoler le Mali. Au lieu d'être isolé, le Mali a plutôt retrouvé donc sa souveraineté et c'est lui qui décide maintenant. Hier, dans l'émission de Zoom Afrique, nous avons pu constater que les langues se dénouent de plus en plus au Mali et que le gouvernement n'hésite plus à faire ressurgir les dossiers sales de la France néocolonialiste et de dénoncer également les exactions donc commises par l'Élysée à l'encontre du Mali. Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre, a accusé donc la France de terrorisme diplomatique, médiatique et psychologique. Et suite à ces accusations, il demande donc la relecture des accords déséquilibrés qui font du Mali un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans autorisation de la France, a-t-il affirmé. Nous avons relu ces accords et on leur a envoyé, a-t-il ajouté, sans préciser quels changements donc le gouvernement malien a exigé. Choguel Maïga a donc insisté pour dire qu'il n'allait plus demander d'autorisation de vol à qui que ce soit. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que la fermeture des frontières aériennes maliennes a aussi poussé la MINUSMA à suspendre temporairement tous ses vols depuis vendredi. Nous sommes en discussion avec nos partenaires maliens sur le nouveau mécanisme d'approbation des vols de la MINUSMA, a déclaré un porte-parole de la mission onusienne. Enfin, donc, les compagnies aériennes de la CEDEAO comme Air Sénégal, Air Burkina, Air Côte d'Ivoire et la compagnie togolaise ASKI et également Air France ont jusqu'à mardi pour préciser si elles entendent poursuivre leur desserte au Mali ou non. Mais ces compagnies aériennes ne sont pas les seules donc, à se retrouver en difficulté. La MINUSMA donc, qui est également en train de s'arracher les cheveux, car selon certaines informations, elle est également obligée donc, de suspendre tous ses vols. Il n'y a eu aucun vol ce lundi, il n'y en aura pas ce mardi non plus, car les services de communication de la MINUSMA l'ont affirmé. Cette autorisation du gouvernement malien de reprendre les vols réguliers est attendu. Nous sommes actuellement en discussion avec nos partenaires maliens sur donc le nouveau mécanisme des vols donc de la MINUSMA tel qu'ils l'ont proposé la semaine dernière. La situation du Mali continue donc d'évoluer dans le sens des intérêts du Mali, des Maliens et même de l'Afrique. De la même manière que le peuple malien soutient le gouvernement malien soutient également son peuple. Le gouvernement malien tente maintenant de réduire la pression qui est sur les Maliens. Alors que le Mali traverse une rude période due aux sanctions économiques et financières infligées à la CEDEAO et l'UMOA, donc le gouvernement avait adopté lors d'un Conseil supérieur de la défense tenu ce vendredi un plan de riposte pour contrer ces mesures. Et selon le colonel Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement, ce plan exhaustif consiste à prendre en compte les priorités et les préoccupations de nos populations en termes d'approvisionnement en produits de première nécessité, tout en précisant qu'il s'agit d'un plan transversal qui comporte plusieurs composantes, donc des questions diplomatiques, géopolitiques, économiques et financières, ainsi que des questions sociales. C'est pourquoi on a pu voir donc des visites d'une délégation malienne en Guinée et également en Mauritanie. De nouvelles alliances intra-africaines se forment donc. La commission mise en place pour la surveillance de la MINUSMA, la récupération du ciel malien et surtout la mise à la porte des troupes d'occupation occidentale du Mali mène le Mali vers la récupération de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité. Les accords coloniaux enchaînant encore le Mali à la France sont donc maintenant remis en question donc dans le collimateur en d'autres termes. À quand le franc CFA ? Le Bénin suivra-t-il l'exemple du Mali ? Décidément, la France et les États-Unis ont perdu entièrement toute leur crédibilité, mais en plus, tout le monde sait maintenant quel est leur vrai visage. Le Bénin, donc, sera-t-il le suivant après le Mali ? Le sage de Porto Novo, le patriarche Karim Da Silva, est très en colère contre la France et les États-Unis. Dans une tribune rendue publique, il s'insurge contre leur ingérence dans les affaires intérieures du Bénin. Dénonçant la position de la France dans le dossier Rekia Madougou, il martèle que personne ne peut commander au peuple béninois ce qu'il doit faire pour sa délivrance. Les pressions exercées par la France sur le gouvernement du Bénin par rapport au dossier Madougou donc continuent de susciter de l'indignation au niveau de certaines personnalités béninoises. Sur la question, donc Karim Da Silva martèle qu'il ne se taira pas. « Non, on ne peut pas me demander de me taire », clame-t-il dans une tribune. Le président des sages et notable de la ville de Porto Novo, donc la capitale politique du Bénin, affirme ne pas en croire ses oreilles quand il apprend par le média mensonger RFI donc que la France exerce des pressions sur le président de la République du Bénin pour obtenir la libération de Madougou, condamné à 20 ans par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Je n'en crois pas mes oreilles. La France, par l'action de son gouvernement, donc à travers le ministre Jean-Yves Le Drian, veut imposer au pouvoir exécutif béninois de passer outre une décision de justice. Et qu'est-ce que cela veut dire, se demande avec exaspération le bientôt centenaire. Pour faire comprendre à la France que le Bénin n'a pas de leçon de démocratie à recevoir d'elle, Karim Da Silva va faire référence à certains pans de l'histoire française. C'est pourtant en France que nous avons vu le général de Gaulle ramener précisément à 67 ans et demi l'âge du départ à la retraite des magistrats du Conseil d'État parce qu'il ne voulait se débarrasser que d'un seul qui avait exactement 67 ans et demi, rappelle le doyen des sages de Porto Novo. Il poursuit dans ses exemples en affirmant que c'est toujours dans ce pays qui se prend comme exemple de la démocratie que le président avait trouvé inadmissible la liberté pour un condamné à mort de saisir une juridiction et obtenir au moyen du recours pour excès de pouvoir l'annulation de l'ordonnance qui a créé le tribunal dont le jugement le condamnait à la peine capitale, rappelle-t-il. Les poursuites en France, poursuit-il, donc contre des biens mal acquis, seraient-elles des procédures engagées avec la bénédiction de l'État français qui vient de nous démontrer, par ses pressions, que le président béninois, que l'exécutif français n'est ni neutre, ni impuissant dans cette brumeuse histoire de biens mal acquis et qu'il n'a que faire du principe de la séparation des pouvoirs. Prenant ensuite la défense de la justice béninoise, Karim Da Silva estime que le juge béninois, en procédant par la recherche de la volonté interne des mises en cause, donc dans les dossiers de déstabilisation de l'État ou financement de terrorisme, est parvenu à la conclusion qu'ils ont tenu des propos et posé des actes graves, attentatoires à la sûreté de l'État béninois. Il ne s'agit donc pas d'innocentes victimes livrées par l'arbitraire du prince à la rigueur de la loi. Les mises en cause ne sont pas non plus de paisibles citoyens jetés en pâture à la vindicte domestique du juge répressif à cause d'un agenda particulier. Nul n'est censé ignorer la loi. En agissant comme ils l'ont fait, n'est-on pas donc en droit de se demander s'ils ignoraient ce à quoi ils s'exposaient? La loi n'est-elle pas égale et applicable à tous? A tranché le sage de Porto Novo. Pour lui, la justice a tranché et personne ne peut commander à notre peuple ce qu'il doit faire pour sa délivrance et son développement, ni ce qu'il devrait faire pour maintenir la paix. Nous avons des institutions. D'où vient-il donc que les États-Unis et la France se mêlent d'apprécier le respect de la séparation des pouvoirs au Bénin, conclut-il.
Lors d'un contact téléphonique avec son homologue nigérien, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a plaidé en faveur d'un approfondissement tous azimuts des relations entre les deux pays. Le gouvernement Raisi a fondé sa politique étrangère sur l'extension des liens et coopérations de façon illimitée avec les pays africains et le Sahel occupe une place de choix dans cette politique. Angola, Total et Energy cèdent une participation non opérée dans les blocs offshore 14 et 14K à Sommeil. La société pétro-gazière française de Total Energy continue de se séparer de certains de ses actifs jugés non rentables afin de se focaliser sur des projets plus stratégiques. Le 17 janvier, le géant français de l'énergie, Total Energy, a annoncé qu'un accord a été conclu avec la société angolaise Somoil pour céder à celle-ci sa filiale de Angola Bloc 14BV. Le montant de la transaction n'a pas été précisé. L'armée malienne annonce avoir neutralisé plusieurs terroristes dans le centre du pays. Les forces armées maliennes ont annoncé dimanche avoir neutralisé plusieurs terroristes, dont le numéro 2 de Katiba Massina Ousmane Sidibé Diye. Bobala dans des frappes aériennes offensives dans les régions de Mopti et Ségou dans le centre du pays. Les forces armées maliennes, dans leurs offensives contre les groupes armés terroristes, ont procédé le 12 janvier 2022 à des frappes aériennes dans les zones de Sama, Soso et Logori dans le cercle de Bankas, a annoncé le colonel Souleymane Dambele, directeur de l'information et des relations publiques des forces armées, dans un communiqué. Guinée, Alpha Condé part se soigner aux Émirats Arabes Unis. Renversé le 5 septembre dernier par des militaires, l'ancien président guinéen Alpha Condé a quitté Conakry ce lundi après-midi 17 janvier. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, l'a autorisé à aller suivre des soins médicaux à l'étranger pour des raisons humanitaires. Des sources de concordantes à Alpha Condé à Kitokonakry à 14h, heure locale, à bord d'un avion privé, direction Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis pour suivre des soins médicaux. La Tanzanie signe un accord avec le Burundi pour construire une ligne ferroviaire inter-État de 282 km. Fin 2021, la présidente tanzanienne et son homologue burundais avaient convenu de renforcer leurs échanges commerciaux grâce à un nouveau chemin de fer. Cette année, les gouvernements des deux pays ont signé un accord pour entamer la mobilisation du financement nécessaire au projet. Les gouvernements tanzaniens et burundais viennent de signer un protocole d'accord pour la construction d'un chemin de fer inter-État. L'annonce a été faite par le ministre tanzanien des Finances dans un communiqué publié sur Twitter le 16 janvier.